Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Univox, cette semaine en Bretagne, à Brest, pour être précis, dans le Finistère. Brest, la cité du Ponant, comme on l'appelle souvent, mais on pourrait aussi l'appeler la cité éthique, du développement durable ou écologique. Alors que la ville prévoit de réduire de 20% les consommations d'énergie en 4 ans, elle abrite depuis quelques mois une plateforme d'éco-activité et de développement durable, le C4. Nous entendrons dans un instant son créateur, Gaël Manès. Univox, émission préparée cette semaine par Radio U, Radio Campus Brest.
Univox.
Mais d'abord, remettons les choses dans l'ordre. Pour les Brestois, qu'est-ce que le développement durable ?
Alors là, c'est une bonne question. Pour moi, le développement durable, c'est développer l'économie tout en pensant à l'environnement. C'est penser à développer tout ce qui est urbanisme, tout en pensant à ne pas faire du mal à ce qui est la planète.
C'est continuer de chercher des solutions qui soient respectueuses de la Terre.
Non, alors là, désolé, mais non, là, j'ai pas.
C'est essayer de maintenir ce niveau de vie en diminuant la pollution.
Ça veut dire que tout ce qu'on utilise n'est pas juste bon à jeter à la poubelle une fois utilisé.
C'est quelque chose justement qui est réutilisé si possible à l'infini.
C'est la pérennité de ce qu'on consomme, quoi, être capable de continuer à produire sans liquider toutes les richesses de notre planète. Hein.
C'est faire des choses en pensant à plus tard, à l'impact que ça aura plus tard sur la nature, sur l'environnement, sur la santé.
Acheter à quelque chose qui dure, quoi. Mettre le prix à la limite pour avoir la meilleure qualité, quoi. Pour pas jeter, c'est ça.
Univox.
Si certains voient plus une notion de lutte anti-gaspillage, ils sont donc moins nombreux à évoquer le côté production et création. Du textile à l'alimentaire, en passant par l'agricole, est-ce que les Brestois y sont sensibles ?
Est-ce que je fais attention à ce que j'achète ? Oui, énormément.
Non, pas vraiment.
Non, pas spécialement.
Oui, tout à fait. Je fais très attention. En règle générale, je n'achète que ce que je vais consommer.
Et pour ce qui est des vêtements, par exemple ?
Tout à fait. Déjà, je ne prends pas les premiers prix. Donc après, j'ai un regard quand même sur la qualité, étant donné que je considère que c'est un investissement au départ qui doit durer.
Non, pas du tout.
Pour les vêtements, beaucoup de recyclage.
Le fait de changer de fringue tous les jours pour une histoire de mode ou de look, c'est pour moi une grosse erreur.
Je fais attention à la provenance, j'achète plutôt local.
Tout ce qui est coton, tout ça, je fais vraiment attention sur ça.
Je suis honnête, non, mais faudrait le faire, c'est sûr.
Je préfère des vêtements qui soient pas trop plastifiés.
Et où ils sont fabriqués, ça c'est une des choses que je regarde aussi. Dans le local, si possible.
Oui, comment ? J'achète du coton la plupart du temps.
Oui, je fais attention à ce que j'achète et puis ensuite je porte et quand je porte plus, je mets pas la poubelle, je recycle ou je redonne à quelqu'un ou je remets au conteneur.
J'essaye au maximum, oui, parce que c'est dommage de mettre quelque chose et puis de le jeter alors que d'autres personnes peuvent en avoir besoin. C'est impressionnant quand même les quantités de vêtements qui sont jetés, mis à la décharge, et c'est pas bon pour l'écosystème d'avoir toutes ces décharges avec tous ces matériaux qui peuvent être recyclés.
Oui, je fais attention, j'achète pas si je pense que c'est pas utile et puis j'essaye d'acheter dans des matières naturelles.
J'achète pas mal de choses d'occasion.
La soie, acheter de la soie, c'est ça ?
Univox.
Gaël Manès, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet Univox.
Pas de rien, avec grand plaisir.
Alors, Univox consacré à l'éco-activité, le commerce éthique et responsable dans le pays de Brest surtout. Gaël, vous êtes donc designer mais pas que, hein, puisque vous êtes aussi militant, on va le dire comme ça, en tout cas défenseur des créations et des ventes dans le contexte du développement durable et de l'éco-activité. Justement, l'éco-activité, en fait, c'est pouvoir créer, travailler en tenant compte de l'environnement, en fait, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est donc pouvoir créer des projets, des concepts, tout en intégrant la part de l'homme et de l'environnement en amont même de la stratégie. Donc, pour avoir des impacts réduits et pouvoir faire que tout fonctionne bien ensemble, quoi.
Et donc vous avez répondu à ce processus en créant le C4, hein, une grande plateforme située à Brest. C'est une espèce de grande galerie qui permet en fait d'accueillir les acteurs de l'éco-activité finalement.
Oui, tout à fait. Donc le C4, c'est en fin de compte une espèce de grande galerie, comme vous dites, qui est assez multiforme. En fin de compte, à la base, c'était un espace de coworking dans lequel on a accès aussi à une boutique expérimentale pour pouvoir tester les projets, les concepts des différents porteurs de projets. Et en fin de compte, on s'adapte à ce qui est à Brest, à la demande aussi des Brestois. des coworkers, et puis finalement c'est en train de prendre différentes formes, donc ça part des fois en galerie, ça part en exposition, une bonne partie est réservée aux coworkers, et puis là on accueille actuellement un projet de showroom de marque éthique qui a été présenté par un défilé de mode. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment plein d'activités qui reflètent un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur du C4.
Quand on dit les acteurs des éco-activités, finalement, il s'agit d'entreprises, de créateurs uniquement ?
Oui, il s'agit vraiment de tout un microcosmos. En fin de compte, il s'agit de personnes qui sont des étudiants, des associations, des sociétés, même qui commencent de plus en plus à aller vers le développement durable, et même certains qui ne sont pas des porteurs de projets, mais réellement des sociétés installées déjà, qui commencent à chercher des petites entrées dans le développement durable, donc pour diversifier leur activité, etc.
Alors ça existe depuis fin 2016, hein, si je ne me trompe pas, depuis un peu moins d'un an.
Oui, tout à fait.
Et pourquoi le C4 en fait ? Pourquoi avoir appelé ça le C4 ?
Alors le C4 en fin de compte, c'est en référence à l'explosif. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi.
C'est un peu paradoxal finalement.
Oui, tout à fait, mais en fin de compte, je travaille beaucoup sur l'innovation durable, c'est un des cœurs de mon métier, donc via le design, etc. Et l'innovation durable doit souvent passer par une innovation de rupture. Donc la notion de rupture, c'est de plus faire ce qui existait hier, donc des choses qui reflétaient réellement la pléonexie humaine. Donc le C4 est là pour montrer qu'il faut casser les codes et repartir sur des bonnes bases, repartir sur des mutualisations, travailler ensemble, travailler avec l'autre, et plus forcément que travailler pour du business entre guillemets, mais travailler mieux, donc éthiquement.
On a dit développement durable, éco-activité, on a tendance à se perdre un petit peu dans ces deux notions-là, c'est sensiblement la même chose ?
Oui, alors pour moi, la meilleure définition que j'ai du développement durable, c'est de recentrer l'homme et l'environnement au cœur du projet, au cœur d'un processus créatif, etc. L'éco-activité, c'est simplement une activité éco, c'est-à-dire écologique, donc éco-responsable, et l'écologie, c'est sensiblement la même chose.
Le C4, ça permet d'accueillir les acteurs qui favorisent le développement durable, mais aussi les acteurs locaux, finalement.
Oui, tout à fait.
Beaucoup d'acteurs de Brest.
Ça permet d'être fédérateur. En fin de compte, c'est un lieu qui a pour vocation première de fédérer des acteurs autour d'une thématique commune qui est le développement durable. Donc on peut tout à fait accueillir les municipalités, des grandes entreprises, des gens qui souhaitent faire des meetings même en rapport avec cette thématique-là. Et puis ça permet justement d'avoir un lieu qui ait une étiquette en fin de compte. Donc un lieu qui soit un petit peu une référence dans un domaine et qui permette aux personnes de se rapprocher plus facilement.
C'était un bon exemple pour vous, Brest, justement, pour créer une plateforme comme celle-là, comparée à d'autres villes par exemple ?
Oui, alors Brest, pourquoi ? Parce que c'est un peu plus petit que d'autres villes. Moi, je suis de Brest depuis presque 7 ans maintenant, et je trouve que Brest est relativement propice au développement de projets, au développement durable à proprement parler, parce que Brest est entouré des éléments, et Brest est relativement plus cool que Paris. Paris, effectivement, ça ira plus vite, on développera beaucoup plus vite le business, sauf que si on veut faire du business éthique et du business durable, il faut être quand même un peu plus posé et un peu plus cool pour déjà être dans cette mentalité-là. Bien sûr, après, je pense qu'il faut quand même bouger à un moment donné, mais Brest était le lieu idéal. Et je pense qu'un projet qui est testé et validé à Brest peut être validé après ailleurs en national.
Acteurs locaux, ça veut dire donc production locale et donc transport moins colossaux finalement que si vous venez de Chine ou des États-Unis.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est bien. J'adore cet exemple parce qu'on a justement les deux cas. On a des productions locales. Je vais prendre un exemple d'une marque qui s'appelle Babelico, qu'on peut citer, je pense.
Oui, oui.
Donc, c'est un labo brestois qui a eu la très bonne idée de travailler avec tous les légumes hors gabarit, hors calibre, et les légumes verts, par exemple, lors des récoltes auprès des maraîchers locaux. Ces gens-là travaillent sur la conserverie pour justement réexploiter ces légumes qui auraient pour vocation d'être jetés. Donc là, on est très clairement sur les circuits courts et ça favorise l'émergence de ce type de modèle économique. Maintenant, on a aussi résolument, on doit être un peu ancré dans la mondialisation. Si on ouvre un café, par exemple, il faut du café. Du café, il n'y en a pas en Bretagne. Et là, le café ne vient pas de France. Donc, par conséquent, pour répondre à la partie des transports et des circuits courts, là, on n'a pas de circuit court pour le café. Mais au contraire, comment on a pallié ça ? En travaillant avec la compagnie Tote, qui fait que du transport en vieux gréement à la voile et qui ramène le café de République Dominicaine. Donc voilà, très concrètement, ce qu'est quelque chose d'assez éthique, en fin de compte.
Donc en fait, vous n'excluez aucun secteur d'activité, on va dire, hein, du moment que c'est bio-responsable et que ça agit dans le contexte du développement durable.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de regrouper tout le monde et ensuite de voir comment tous ensemble, on peut travailler sur des projets.
Alors au départ, j'imagine que c'est vous hein, qui démarchiez les entreprises ou les acteurs, les éco-entreprises, on va dire. Comment vous les avez trouvées ?
Écoutez, c'est venu assez rapidement, hein, de fil en aiguille, en rencontrant quelques personnes qui étaient assez bien implantées dans certains milieux. Alors, on a différents milieux qui sont relativement assez associatifs en général, parce que c'est des projets qui ne sont pas encore des modèles économiques, qui sont des prémices, et qui ont pour vocation justement peut-être de grandir ou pas, suivant les porteurs de projets. Et en parallèle, d'autres entreprises qui, elles, sont, commencent à être ancrées un peu plus dans ces valeurs-là, ou certains carrément qui sont assis à l'heure actuelle, quoi.
Et en ce moment, il y a 4 jeunes étudiants en Master Management Projet dans le C4 qui ont mis en place un showroom responsable dédié justement au commerce éthique et responsable. Quand ils vous ont sollicité, vous avez accepté tout de suite ?
Ah oui, tout à fait. Le projet me plaisait dès le début. C'est bien évidemment la typologie de projet que j'attendais au sein du C4. Je pensais avoir un peu plus de porteurs de projet d'ailleurs que ça, mais c'est vraiment le projet qui colle le mieux parce qu'en fin de compte, il est fédérateur. Ces 4 étudiants ont eu la bonne idée d'aller chercher tous les produits éthiques dans toutes les boutiques et dans toutes les marques qu'ils ont pu rencontrer. Et donc finalement, on a une sélection et un échantillonnage de tout ce qu'il peut y avoir en local et même un peu plus loin, quoi. Donc c'est assez intéressant.
On y était hein, à ce showroom cette semaine, il y avait du monde. Faut dire qu'en plus de toutes les créations qu'ils exposaient, il y avait aussi des ateliers bracelets. Mais je vous laisse découvrir tout de suite le reportage.
Univox.
Du tissu, du bois, des photos, des passants, de la musique, de la création. Voilà entre autres ce que l'on peut trouver au C4. Cette plateforme située à Brest offre de la visibilité aux acteurs de l'éco-activité, du développement durable et du commerce éthique. Nous sommes en mai, et entre quelques jours fériés cumulés, se tient ce que l'on appelle un showroom responsable. Organisé par des étudiants, il est tenu pour une semaine. Mais au fait, qu'est-ce qu'un showroom responsable ?
C'est un espace où sont exposés, et on ne vend pas, des créations de marques et créateurs qui fabriquent dans des conditions responsables de l'environnement et des droits de l'homme et du travail.
Claire Vie, que l'on vient d'entendre, tout comme Joris, Marion ou Ophélie, sont en Master Management de projet. Ensemble, ils ont créé l'association InnoO qui a monté cette grande galerie éthique. Parmi toutes les expos, on y retrouve les fondamentaux du prêt-à-porter, mais aussi des objets de décoration, des photos, des maquettes, accessoires, et même une voiture, le tout entouré de quelques livres conseils sur la consommation écolo.
On a fait une étude de faisabilité en faisant des sondages, notamment auprès des commerçants brestois, pour savoir en fait qu'est-ce qui pouvait les rapprocher des créateurs, pour essayer de les faire venir dans leur boutique.
Après, je pense que la plupart n'ont pas forcément besoin de nous pour ça. C'est surtout pour faire découvrir un nouveau concept aux Brestois et puis montrer qu'on peut trouver des jolies choses qui soient bien faites et qui ne coûtent pas forcément les œufs de la tête.
Un showroom qui attire de nombreux curieux qui parfois ignorent ce qui se passe ici.
Je suis passée devant et puis c'est tout. J'ai dit tiens, c'est nouveau et je suis rentrée.
On a vu que c'était ouvert, il faisait bon et qu'il y avait une curiosité en fait de par la devanture.
Le lieu est vraiment très convivial, très zen et plein de petites nids, de petits coins et recoins. Et ça, c'est très intéressant. C'est une vraie caverne d'Alibaba.
Et pour qu'un maximum de passants s'arrêtent devant la galerie, il a fallu donner un coup d'envoi de taille.
On a ouvert le samedi 20 mai et le vendredi 19, on a fait notre soirée d'ouverture avec un petit discours suivi d'un défilé avec plusieurs créateurs qu'on retrouve ici au showroom et puis un petit buffet. On a eu presque 1000 personnes venues, donc on est vraiment très fiers et heureux de l'engouement des Brestois pour le showroom.
Face à cette vitrine de production éco-responsable, le bouche-à-oreille passe donc facilement. Il est cependant important de préciser que beaucoup de ces créations sont brestoises. Le reste est français ou européen, tout au plus. Et certaines enseignes locales n'ont pas hésité à prêter main-forte au showroom. À quelques pas d'ici, Armel tient une boutique d'accessoires et bijoux, réalisée, bien sûr, dans le cadre du développement durable. Convaincue par le principe du showroom, elle n'a pas hésité une seconde à se joindre aux étudiants.
Leur énergie, leur détermination m'a séduite en fait. Ouais. Cette boutique propose essentiellement des accessoires féminins, des bijoux, des sacs, un petit peu de décoration.
Et pour elle, proposer des productions à la fois locales et éco-responsables n'est pas chose facile.
C'est pas évident à trouver toujours, hein, parce qu'il faut quand même que ça plaise à la clientèle, que j'ai une fourchette de prix qui soit en adéquation avec le reste.
De retour au showroom responsable, une table au fond accueille de nouveaux arrivants. pour attirer un peu plus de monde, il y a un atelier bracelet.
Donc le bracelet, vous pouvez le faire là, on va le faire en simple. Mais vous avez vu que sur les réseaux sociaux, partout, on peut le trouver en double, en triple, voilà.
Christine Wilson tient une boutique de perles, bijoux et accessoires dans Brest.
Donc du coup, quelle est la couleur que vous voulez mettre par-dessus ?
Principe de l'atelier.
Réaliser un petit bracelet très tendance à la mode, avec une encre marine et des bouts de marine.
L'objectif, en plus de se divertir, permet de créer et construire dans un contexte responsable, écologique et durable.
On est parti. Est-ce que quelqu'un a un briquet ?
Pas mal.
Ça va, vous en sentez ?
Ouais, ça va. Pour le moment, c'est pas trop dur.
En plus de ça, il y a de quoi se rafraîchir. Et là encore...
C'est des produits frais, bio. En jus, donc c'est que des jus bio. Il y a fraises, pommes, pêche, abricot, cassis et multifruits. Il y a un gâteau chocolat banane, un carrot cake et un moelleux citron pavot.
On arrive à la fin de la semaine et le showroom responsable va bientôt se terminer. L'occasion pour nos quatre organisateurs, Claire Vie, Joris, Ophélie et Marion, de tirer un bilan plutôt positif.
Très satisfaite, on a eu presque 1000 personnes. On n'a que des avis positifs, que ce soit les gens qui passent, qui ne connaissaient pas, les gens qui connaissent.
Pour une première édition, c'est hyper encourageant et valorisant.
De sensibiliser du coup à la consommation éthique, c'était notre but premier et ça marchait, du coup c'est bon.
Fort de cette expérience, l'idée d'organiser un autre showroom l'an prochain n'est pas exclue.
On ne se posait pas forcément la question, on se disait juste qu'on allait voir ce que ça allait donner. Et en fait, on a eu tellement de bons retours qu'on se pose la question, parce qu'on se dit que ce serait dommage de s'arrêter là.
Après une semaine intense d'exposition à fond responsable et éthique, le showroom s'achève et le C4 se vide tranquillement en attendant ses prochains locataires.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
On retrouve Gaël Manès dans un instant pour la suite de cet entretien. Univox continue avec Abbé Vigoda, Beer Face. Univox, cette semaine, préparé par Radio U, Radio Campus Brest. On s'intéresse donc au développement durable et à l'éco-activité à Brest. On était avec Gaël Manès, qui a créé une plateforme spécialement pour ça. Ça s'appelle le C4, et on poursuit l'entretien avec lui.
Univox.
Gaël Manès, vous êtes toujours avec nous. C'est donc vous qui avez créé le C4, plateforme éco-responsable à Brest. Comme on a écouté effectivement le reportage au showroom responsable avec les étudiants en master management de projet, c'est important important pour vous d'accompagner les jeunes dans leurs projets et finalement les sensibiliser au contexte du développement durable.
Oui, tout à fait, c'est important parce que demain, le monde ira vers le développement durable, on n'aura pas trop le choix. Donc à partir de là, il faut aider ces jeunes à aller un peu plus vite et aller un peu plus loin. Moi-même, quand j'ai commencé à développer mes premières marques en 2013, j'étais tout seul à développer une marque que j'ai voulu vraiment pousser au bout du développement durable. Et j'étais seul, et c'est ce qui est un peu prêché en fin de compte. Et je pense que si j'avais été entouré d'autres personnes, j'aurais pu aussi trouver à travers ces personnes des compétences. Des compétences, donc finalement pouvoir travailler en maillage, ce qui malheureusement n'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai mis quand même quelques temps à réaliser qu'il fallait vraiment que ça se produise, et c'est pour ça que j'ai entrepris de créer le C4.
Et le C4 hein, qui est donc implanté à Brest, évidemment, mais ceux que vous accueillez ne le sont pas forcément brestois.
Non, il y a vraiment des personnes de tout univers. On le voit quand on fait certains événements, par exemple pour un événement One Shot, on peut travailler avec des collectifs de Mulhouse. Ça nous est arrivé vraiment de travailler depuis le début là, avec des personnes des quatre coins de la France, en fin de compte, de Toulouse, de Marseille pour des plantes brevetées justement pour ne pas avoir d'eau, des gens du collectif Vortex, donc à Mulhouse. Voilà, on essaie d'aller un peu plus loin que simplement Brest, parce qu'en fin de compte, le développement durable fédère énormément de personnes, et demain on fédérera encore plus.
Et quand le C4 a démarré, donc il y a moins d'un an, c'était l'hiver dernier, hein, c'était avec une chocolaterie, je crois.
Oui, tout à fait, la chocolaterie Landerneau sont des transformateurs donc, de chocolat sur Landerneau. C'est une marque qui est déjà bien implantée, qui est connue. En fin de compte, c'est déjà des clients de mon agence, donc je trouvais naturel de leur laisser en fin de compte accès au lieu. Donc c'était intéressant parce qu'on était en pleine période de Noël, et ce que j'ai voulu soutenir, c'était que ce sont des transformateurs, mais surtout des producteurs. Donc ils ont une partie de leur cacao qui a été planté, je pense, il y a à peu près 5 ans au Brésil, donc ils sont propriétaires de Fazenda, et il n'y a pas énormément de chocolatiers en France qui peuvent prétendre à cela, donc je trouve intéressant justement de raconter cette histoire aux Brestois et d'insister un peu plus sur cette histoire, sachant qu'on a permis au showroom aux personnes de goûter aux fruits en fin de compte de ces premières récoltes.
On parlait des acteurs locaux en début d'émission, on en a même parlé il y a un instant. Faut dire que vous avez créé la marque Minimaliste qui s'y connaît aussi un petit peu en acteurs locaux, on va expliquer pourquoi. Déjà, Minimaliste, qu'est-ce que c'est ?
Alors, Minimaliste, je l'ai créé en 2013, c'est une marque de mobilier design qui a pour objectif de vraiment mettre en avant les savoir-faire français, travailler qu'avec des matières bonnes, durables pour l'environnement et pour l'homme.
Voilà, donc là aussi, processus de création écologique, responsable et éthique, finalement.
Oui, tout à fait. Même avec une fabrication locale, parce que maintenant, elle est fabriquée au sein des ateliers DLB à Brest. Donc, on est réellement sur une marque locale qui rayonne en France pour l'instant. Bon, on est un petit peu en stand-by sur la partie commercialisation, parce qu'on est en train de développer un nouveau concept justement pour être encore plus durable.
Donc voilà, c'est pour ça aussi que je disais que ça faisait agir, en tout cas travailler les artisans locaux. Je voulais vous demander également, parce que c'est une différence qu'on ne cerne pas forcément, quelle est la différence entre, alors on l'a dit, entre développement durable et commerce éthique ou éco-activité, mais la différence entre éthique et équitable dans ce domaine-là?
Entre éthique et équitable.
Voilà.
Alors équitable, je pense que c'est quelque chose qui profite à tous. Éthique, c'est avoir une certaine éthique à fabriquer, c'est-à-dire que on va vérifier si ça n'a pas été fait par des petits-enfants dans des pays qui travaillent de la sorte. Éthique, c'est vérifier les conditions de travail, c'est vérifier comment extraire la matière, etc. Le commerce équitable, à mon sens, est un peu plus basé sur le partage des valeurs, entre guillemets.
Gaëlle Manès, vous avez donc créé le C4 l'hiver dernier. Est-ce que vous avez pour projet d'en créer un autre, par exemple, ou une autre plateforme du même type ?
Pour l'instant, j'ai plus pour objectif de le pérenniser et de le déployer. De le déployer, mais c'est pas moi qui le ferai, parce que c'est pas mon rôle. Moi, j'aime créer les concepts, créer les marques, comme vous avez vu.
Designer.
Je pense que c'est le rôle d'un designer, en fin de compte. Et je pense que demain, on verra apparaître rapidement des nouveaux métiers que j'appelle depuis quelques mois le design de start-up durable. Parce qu'en fin de compte, on a beaucoup de talent, mais il manque quelque chose de fédérateur et quelque chose qui va répondre à des besoins concrets ou qui va justement montrer qu'il y a des nouveaux besoins à créer. D'où la notion de design de start-up avec des talents locaux. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai entrepris déjà en amont de travailler sur le C4. Mais concrètement et objectivement, je n'ai pas les compétences ni le temps à déployer tout seul une structure comme le C4. C'est déjà bien assez grand et bien assez énergivore en temps, sans compter les moyens à mettre en œuvre. Donc concrètement, l'objectif c'est de le déployer, mais de trouver quelqu'un pour le déployer.
Vous l'avez dit, donc vous voulez mettre en place un design de start-up durable ?
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est ça. Ça veut dire que du coup, ça encouragerait, en tout cas, ça accompagnerait les nouveaux acteurs, qu'ils soient jeunes ou pas, d'ailleurs, les nouveaux acteurs qui vont travailler en fonction du développement durable.
Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de porteurs de projets à l'heure actuelle. En parallèle, on voit des fonds d'investissement qui se créent pour certains domaines de start-up, etc. Donc, on comprend bien que toutes les start-up sont en train d'aller vers le numérique parce que les fonds d'investissement travaillent beaucoup en numérique, étant donné que c'est un peu la nouvelle révolution. Cependant, je pense que la notion de durable doit être intégrée en amont à chaque fois, donc doit être intégrée à ces nouvelles start-up-là. Des start-up qui travaillent sur du numérique n'ont peut-être pas forcément cette vision-là du développement durable, d'où la notion de design de start-up durable, c'est d'accompagner les porteurs de projets en amont même de la création de leur projet à quelque chose qui sera peut-être meilleur pour l'environnement que ce ne l'aurait été.
Vos missions, de manière générale, c'est effectivement de faire connaître un petit peu les acteurs qui contribuent au développement durable, mais aussi finalement de les accompagner, de les sensibiliser, de les éduquer, mais pas que, hein, tout le monde finalement.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu qui soit à la fois utile pour les porteurs de projets et surtout qu'il soit pédagogique. Parce que les Brestois, ou même les personnes qui viennent découvrir le lieu, elles vont avoir finalement une culture qui va commencer à grandir en découvrant certains projets, comme Filet Fab notamment, qui sont passés au sein du C4, qui récupèrent les filets de pêche et qui tentent d'en créer des nouvelles matières. Donc c'est surtout un rôle pédagogique qui va faire que ces personnes-là, à un moment donné, quand ils iront dans un magasin, auront un regard différent sur leurs achats et sur leur consommation. Et c'est grâce finalement à ses clients, que demain on pourra consommer mieux et consommer durable en fin de compte.
Ça veut dire que vous avez travaillé aussi, puisque le projet de Filet Fab, ça a été fait, je crois, avec des étudiants qui étaient en master design de la transition. Donc ça, on n'est pas loin finalement entre le développement durable et le modèle de transition, le concept de transition finalement.
Oui, tout à fait. Bah, la transition, en fin de compte, on en parlait tout à l'heure, c'est la rupture.
C'est la même, ouais.
C'est consommer différemment, vivre différemment en fin de compte. Donc c'est accompagner réellement les gens vers la transition et vers un monde plus durable. C'est simplement le monde qui existait hier, avec la surconsommation, avec c'est le monde d'après-guerre en fin de compte, donc qui n'a pas changé. Seulement aujourd'hui, on a des contraintes qui sont différentes, on connaît tous les impacts environnementaux qu'ont nos consommations, et on se rend compte qu'il ne faut peut-être plus faire pareil. Donc plus faire pareil, ça veut dire créer des modèles économiques un peu différents, ou carrément différents, et vraiment qu'ils soient disruptifs. Donc à partir de là, il faut créer des lieux et il faut accélérer cette innovation durable.
Donc que ça soit justement accélérer cette innovation, éduquer ou sensibiliser, ça demande quand même beaucoup de temps. Tout n'est pas encore inscrit dans les mentalités finalement.
Oui, tout n'est pas encore inscrit, ça demande du temps. Et c'est surtout qu'il y a, avant que tout se transforme en business, en fin de compte, pour parler de business durable, il y a encore un peu de temps, et c'est cette notion de design qui intervient, qui est intéressante. C'est-à-dire que le design va viabiliser tout ça, et finalement rajouter aux trois axes de faisabilité, désirabilité, viabilité, le quatrième axe de durabilité. Donc, qui va prendre en amont dans la conception, ce que je disais tout à l'heure, la partie développement durable. Je vais vous donner un exemple très très concret. Si vous travaillez sur un concept de produit que vous souhaitez distribuer à travers le monde, il faut réfléchir à comment sera son packaging pour le minimiser. Si on arrive à diviser par 3 ou 4 l'empreinte de ce packaging-là, peut-être que c'est plus intéressant. Et peut-être que derrière, on peut aussi travailler avec d'autres méthodes de distribution. Voilà, donc tout est à prendre en compte et en amont des conceptions. Quoi.
En tout cas, on vous souhaite bon courage, bonne continuation. Gaël Manès, je rappelle que vous avez créé effectivement le C4, la plateforme d'éco-activité à Brest, et que vous êtes également designer. Merci beaucoup Gaël Manès.
Eh ben merci à vous.
Univox, c'est terminé pour cette semaine. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de radiocampus.fr. À très bientôt.